Par ses exhortations et bien d'autres encore, Jean-Baptiste annonçait au peuple la bonne nouvelle. Est-on sûr que c'est une bonne nouvelle ? Alors on nous dit, le grain sera amassé dans le grenier et la paille sera brûlée au feu qui ne s'éteint pas. Pour le grain, c'est certainement une bonne nouvelle, mais pour la paille, cette venue du Messie, cette venue du Sauveur est-elle source de joie ou d'inquiétude ? Si le grenier est le royaume du Père et le feu qui ne s'éteint pas l'enfer, qui est la paille ? Qui est le grain ? Jean-Baptiste utilise cependant une image précise, non pas celle du tri entre deux espèces de plantes différentes, une mauvaise et une bonne espèce, mais un tri qui a lieu au sein même de l'épi de blé, parce que l'épi de blé est composé de paille et de grain. L'image invite donc, celle-ci en tout cas, à un tri non pas entre de bons individus et de mauvais individus en bloc, mais à un discernement plus profond à l'intérieur même de l'épi, à l'intérieur même des personnes. La question devient, quelle est en nous la part de grain qui sera conservée ? Quelle est en nous la part de paille à brûler ? Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Le prophète Ézéchiel entendait le Seigneur affirmer « Je ne veux pas la mort du pécheur, mais bien qu'il se convertisse et vive. » Allons-nous rester accrochés à notre paille ? Allons-nous rester accrochés à notre malice jusqu'au bout ? Ou bien allons-nous y renoncer ? Mais quel peut être le rôle de Jean-Baptiste dans cette affaire ? Est-ce qu'il est là seulement pour donner une information chronologique ? Le Messie est tout proche ? Parce qu'il reconnaît ouvertement qu'il n'est pas le Messie. Il n'a donc pas, lui, la puissance du pardon des péchés. Le baptême de Jean-Baptiste ne donnait pas le pardon des péchés, comme aujourd'hui, le baptême sacramentel, lui, l'apporte. Et Ray Anthony, que vous avez vu, Dylan, Madeleine et Noémie se sont approchés pour demander non pas le baptême de Jean-Baptiste, mais le baptême de Jésus, celui qui donne le pardon des péchés de la part de Dieu. Et pourtant, les gens se sont approchés de Jean-Baptiste pour lui demander « Que devons-nous faire ?» Mais qu'est-ce qu'on peut attendre de Jean-Baptiste ? À la question des publicains, les collecteurs d'impôts, Jean-Baptiste répondait « N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé ». Aux soldats, il disait, « Ne faites ni violence, ni tort à personne, contentez-vous de votre solde. » C'est-à-dire qu'il les exhortait à accomplir leur devoir d'État, accomplir ce dont il avait la responsabilité, proprement, avec justice, sans violence ni extorsion. Alors, pour un juge, le devoir d'État, c'est de connaître la loi, de l'appliquer avec justice, de refuser les tentatives de corruption ou de pression. Pour un écolier, qu'est-ce que ça peut être le devoir d'État ? C'est de grandir, de prendre sa place dans la famille, à l'école, de développer son physique, sa santé, son sens du concret, de former son caractère et son intelligence, de développer son esprit de service, de s'ouvrir au sens de Dieu. Pour un chef dans le scoutisme, par exemple, qu'est-ce que ça peut être son devoir d'État ? Se former, connaître les principes du mouvement scout, prendre du temps pour préparer les activités, espérer dans les jeunes qui lui sont confiés. Ils peuvent faire de belles choses, il faut les encourager, les tirer vers le haut, et avec miséricorde aussi, car quand ils échouent et trébuchent, il faut être là pour les relever, pour les remettre sur les rails. Bon, mais quel est le rapport avec la conversion ? En fait, le rapport est très profond. En invitant à se concentrer sur le devoir d'État, Jean-Baptiste nous permet de découvrir les lieux de résistance de notre cœur. Le devoir d'État est un bon critère de discernement sur ce qui doit être converti en nous. Je reprends l'écolier. Imaginons l'écolier, je suis toujours en retard en classe. Ou le matin, c'est toujours la guerre à la maison parce que je n'arrive pas à me lever, il faut me menacer au jet d'eau pour que je sorte de mon lit. Comme écolier, je suis tenu d'arriver à l'heure. Qu'est-ce qui m'en empêche? Je suis fatigué le matin, mais pourquoi? Peut-être parce que je me couche trop tard, parce que j'ai terminé tard mon travail, peut-être parce que je me suis mis tard au travail, mais je découvre que c'est là où il faut agir, en amont. Ce qui m'empêche de faire mon devoir d'État, c'est souvent un élément qui s'est durci dans mon cœur. Et parfois, je me rends compte, mais ce sont des choses pour lesquelles j'ai demandé plusieurs fois pardon dans le sacrement de la réconciliation. Mais il y a quelque chose qui résiste. Un jour, le père Cantalamessa, le prédicateur de la maison pontificale à Rome, prenait une image que je crois parlante pour décrire cela. Il prenait l'image d'une stalagmite. Alors, je ne sais pas si tout le monde sait ce qu'est une stalagmite. Une stalagmite, c'est cette espèce... Vous avez les stalactites dans les grottes qui descendent, et les stalagmites, ces espèces de cônes de calcaire qui montent. Une stalagmite, donc c'est celle qui monte du sol, ça se forme très lentement. Vous voyez, l'eau goutte sur le sol, l'eau s'en va, mais laisse un dépôt de calcaire qui petit à petit grossit et s'élève jusqu'à former une stalagmite, parfois très haute, très solide. Eh bien, il en va un peu de même dans nos différentes démarches de conversion. L'eau de nos bonnes résolutions, voire de nos confessions, a pu couler, mais parce que notre regret, parce que notre contrition n'était pas absolue, n'était pas parfaite, il est resté un petit dépôt, quasi invisible, mais dur, et qui a grandi, et qui finit par faire une stalagmite, une habitude qui s'oppose à notre devoir d'État. Eh bien, devant le Messie, devant le Seigneur Jésus, devant le Sauveur, c'est cette stalagmite qu'il faut présenter pour qu'il la batte, pour qu'il la dissolve. Lui, le Messie, aura la puissance de dissoudre cette stalagmite, ce durcissement du cœur. Jean-Baptiste et le critère du devoir d'État nous permet de l'identifier. L'identifier pour le présenter au Christ. Pas seulement quand il viendra dans la gloire, mais déjà dans le sacrement de la confession, en lui demandant dès à présent la grâce d'un vrai regret, d'une vraie contrition, d'une contrition parfaite. C'est l'Esprit Saint qui donne au cœur la contrition parfaite. C'est l'Esprit Saint qui donne au cœur le regret et le rejet du péché, sans compromission, sans arrière-pensée, parce qu'on voit bien que dans notre cœur, parfois, il y a un petit « oh ». Je vais juste regarder, hein, mais je vais pas le faire, mais je vais juste regarder quand même. Ou bien, oh, demain, je me convertirai. Promis, aujourd'hui, c'est la dernière fois. Petits éléments qui manifestent un cœur qui n'a pas encore été touché par la contrition parfaite. L'Esprit Saint est le meilleur des vinaigres pour dissoudre le calcaire du cœur. C'est le sens de l'ardeur de Dieu contre le péché dans l'Écriture. Il y a vraiment une lutte jusqu'au bout. Et cette ardeur prend son sens quand on entend, dans la première lecture, ce dernier oracle du livre de Sophonie. « Le Seigneur aura en toi sa joie et son allégresse. » Je ne sais pas si vous avez prêté attention à cette parole. « Le Seigneur aura en toi sa joie et son allégresse. » La joie de Jérusalem n'est pas simplement celle que produirait le cœur de Jérusalem. La joie de Jérusalem est la joie qui vient du cœur même de Dieu. Dieu lui partage sa propre joie. Sa propre joie. Sa joie de la communion d'amour. Sa joie de la faire participer à cette communion d'amour qui existe de toute éternité entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Le Seigneur dansera pour toi avec des cris de joie. Je ne sais pas, là encore, si nous prenons la mesure de cette parole. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Que l'homme danse devant Dieu, très bien, mais que Dieu danse pour l'homme avec des cris de joie, il y a quelque chose d'hallucinant, d'hallucinant de grandeur. Parce que ça vient évoquer une joie qui vient de la vie divine la plus intime. Vous savez, le mouvement de la vie divine, on l'appelle avec un mot compliqué, qui s'appelle la péricorèse. Voilà, la péricorèse. La péricorèse, dans ce mot péricorèse, péri, périmètre, vous l'avez déjà entendu, quelque chose autour là, corèse, chorégraphie, tiens, ça évoque une danse. L'intimité de la vie divine est comparée à une danse. C'est pas quelque chose de figé, c'est quelque chose justement de joyeux, en mouvement, en élan l'un vers l'autre, l'un avec l'autre. Et cette intimité de la vie divine, Dieu veut nous la partager, veut danser pour nous, nous faisant entrer dans le cœur même de sa vie. Voilà ce que Dieu veut nous partager, mais d'une certaine manière, essayer de danser librement avec des stalagmites partout sur le sol, c'est pas possible. Voilà que Dieu veut dissoudre ces stalagmites de l'endurcissement par sa grâce, par son esprit. Eh bien, en ce dimanche, Saint Jean-Baptiste, nous te demandons d'intercéder pour nous. Ta voix s'était fait entendre, et elle se fait entendre aujourd'hui encore à travers l'Évangile proclamé. Tu nous appelles à être des épis dont on sépare le grain de la paille. Tu nous appelles à nous disposer à la grâce qui purifie et sanctifie. Tu nous invites à être prêts à la recevoir, à la demander puisqu'elle veut se donner. Seigneur Jésus, humblement nous nous tournons vers toi. Dissous, disperse, anéantis ces stalagmites qui résistent en nous. Ce qui est complice du péché, cette malice dont nous nous accommodons. Nous voulons pouvoir entrer dans la joie de ta présence, dans la communion à ton amour. Amen.